France Inter, 7h30, soyez les bienvenus. Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, un antibio sinon rien. Cette culture très française de l'antibiotique à tout prix régresse légèrement mais très lentement. Bilan d'une étude à paraître aujourd'hui, on vous en dit plus dans un instant. À suivre également les premières indemnisations pour les agriculteurs victimes de l'incendie de Lubrizol. Nous serons aussi en Afrique, au Burkina Faso, déstabilisé par les attaques djihadistes où l'armée française apporte son aide au gouvernement. La révolution Stadia est en route. La plateforme de jeux en ligne de Google arrive en France demain. Et pour terminer, la fierté des jeunes de Seine-Saint-Denis représentée à l'écran dans le dernier film de Lajli, Les Misérables, projeté en avant-première à Clichy-sous-Bois. Nous y étions.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui le réalisateur David Teboul qui publie L'Aube à Birkenau aux éditions Les Arènes. C'est un recueil d'entretiens et de photos de Simone Veil.
France Inter.
L'antibiorésistance, Sébastien, enjeu sanitaire mondial. La France s'améliore, mais reste en queue de peloton.
On parle là de la résistance aux antibiotiques. Journée européenne d'information aujourd'hui. C'est l'une des menaces qui pèse le plus sur la santé aujourd'hui, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. 10 millions de personnes pourraient en mourir d'ici 2050, davantage que le cancer. Il faut donc mieux contrôler notre consommation d'antibiotiques, la limiter, tout particulièrement en France, l'un des pays où on l'en prend de plus en Europe. La France qui perd peu à peu ses mauvaises habitudes, mais qui peut mieux faire, les précisions de Véronique Julia.
En 2018, on a vendu en France 728 tonnes d'antibiotiques destinées à la santé humaine et 471 tonnes destinées à la santé animale, les animaux en question étant destinés ensuite à la consommation. 93% des ordonnances sont dispensées en médecine de ville, avec 2,38 prescriptions par jour pour 1000 habitants. On en donne surtout aux petits, les moins de 5 ans, et on donne surtout ce qu'on appelle les bêta-lactamines, parmi lesquelles l'amoxicilline, qu'on prescrit couramment pour les infections d'hiver. Bonne nouvelle, depuis 10 ans, il semble que les médecins lèvent le pied. Le nombre de prescriptions a baissé de 15% et même davantage chez les enfants. On prescrit mieux aussi, en évitant un peu plus les antibiotiques les plus susceptibles de générer de la résistance. Une tendance un peu inégale selon les régions, mais qui est due peut-être aussi au fait que les patients en réclament moins, car ils sont mieux informés des dangers d'une surconsommation. Même constat pour la vente d'antibiotiques vétérinaires. L'exposition des animaux a chuté de 38% depuis 2011. Un mieux donc, mais pas encore de quoi pavoiser. La consommation d'antibiotiques en France reste encore supérieure d'environ 30% à la moyenne européenne.
Voilà, le pays le plus performant en Europe sont les Pays-Bas qui consomment trois fois moins d'antibiotiques que la France.
Il est 7h33, ils attendent d'être indemnisés avec impatience.
Les agriculteurs du nord de la France, touchés par l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, 3000 exploitations sur les départements de Seine-Maritime, de l'Oise, de l'Aisne, de la Somme et du Nord, interdites de vendre leurs produits. Leur lait, leurs œufs, leurs légumes pendant 3 semaines. Bilan 40 à 50 millions de préjudices. Ces pertes, l'usine s'est engagée à les compenser grâce à un fonds d'indemnisation abondé par l'industriel lui-même. Et c'est à partir d'aujourd'hui que les premiers versements devraient avoir lieu. Ce n'est qu'un début. Les agriculteurs ont encore près d'un mois jusqu'au 15 décembre prochain pour déposer et compléter leur dossier. Illustration avec des agriculteurs de Seine-Maritime. C'est le reportage de Manuel Ruffet.
Le lait de ces 100 vaches laitières, c'est bien simple, il l'a jeté, épandu dans ses plaines. Bruno Ledru n'est pas prêt de l'oublier.
Psychologiquement, c'est compliqué de jeter sa production, surtout qu'au bout de 5-6 jours, quand vous savez que toutes les analyses sont bonnes et que ça dure encore 10 jours parce qu'on ne sait pas pourquoi. Personnellement, j'ai jeté 40 tonnes de lait et on était plus de 200 exploitations laitières concernées. Donc si vous faites la multiplication, ça fait beaucoup.
Il a fait ses comptes, Bruno Ledru, installé à une quinzaine de kilomètres de l'usine Lubrizol. Son manque à gagner s'élève à 14 500 euros, sans compter les frais indirects, précise-t-il. L'interprofession laitière s'est mobilisée pour compenser une partie de ses pertes, mais maintenant, c'est au tour de Lubrizol.
Déjà que Lubrizol rembourse l'interprofession laitière, moi j'ai touché qu'une avance, hein. J'ai pas touché une indemnisation. Hein. Donc l'avance, si Lubrizol le rend pas, c'est moi qui vais le payer un jour.
Les dossiers doivent être déposés avant le 15 décembre, mais ce n'est qu'une première phase, se félicite Laurence Sellos, la présidente de la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime.
Tout n'est pas clos au 15 décembre.
il y a des pertes qu'on n'a pas imaginées ou qu'on va découvrir. Donc il est nécessaire qu'on se revoie pour négocier avec Lubrizol sur un laps de temps beaucoup plus important.
D'après elle, ce sont aujourd'hui encore les producteurs en circuit court qui souffrent le plus parce qu'ils n'arrivent pas à regagner la confiance des consommateurs.
Manuel Ruffez, on reste dans les questions d'environnement avec la suite de la conférence citoyenne pour le climat, cette consultation créée après le mouvement des Gilets jaunes qui rassemble 150 citoyens tirés au sort environ tous les mois pour tenter de réfléchir à de nouvelles mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Une session marquée ce week-end par la venue de Nicolas Hulot. Et comme à chaque session, France Inter suit deux de ses participants, une retraitée et un architecte, bilan avec leur reportage de Sixtine Lys.
Marie-Josée Victor, retraitée, est assez sensible à la sortie du dernier atelier du week-end.
C'est assez lourd, ça, mais ça va, quoi, on tient le coup.
Oui, c'est des week-ends qui sont très chargés.
Très chargés.
Le rythme est intense, 3 jours d'ateliers, de rencontres avec des experts, des débats, parfois tard le soir, et beaucoup d'informations assimilées.
J'ai l'impression, moi, de représenter réellement la base. C'est pour ça que je ne comprends pas toujours tout ce qui se dit, parce que je n'ai pas de connaissances.
Pour cette ancienne fonctionnaire, la plus grosse problématique de cette convention, c'est le temps.
Tout travailler en profondeur, c'est pas possible. Je pense aurait été lassant à la longue, mais je pense qu'à vu la masse de travail qui est demandé, je pense que ça méritait presque une année.
Il y a aussi eu plusieurs moments enthousiasmants ce week-end. William Ocan, architecte nantais, partage le sien.
Intervention de Nicolas Hulot, qui est venu nous insuffler une force par le défi. Son intervention était vraiment un apport incroyable et marquait le début de la convention de manière forte.
Grâce à l'interpellation d'une citoyenne, Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé qu'il participerait à la convention en janvier. Encore heureux, sourit Marie-Josée.
Je trouve que c'est la moindre des choses qu'il vienne. Ne pas venir, ce serait une faute, entre guillemets. Puis ça serait dire que ça ne sert pas à grand-chose.
La prochaine session se tient du 6 au 8 décembre, malgré la grève générale le 5.
À noter en matière de climat, les intempéries en Italie, nouvelle marée haute à Venise, mais moins grave que celle de la semaine dernière, 1,50 m au lieu d'1,90 m. En revanche, en Toscane, 2 autres joyaux, Florence et Pise, ont été placés en état d'alerte.
7h36, direction le Burkina Faso, miné par les groupes djihadistes du Sahel.
Le Burkina confronté au fléau terroriste, tout comme le Mali, le Niger ou le Tchad. Édouard Philippe ouvre ce matin au Sénégal le 6e forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Un sommet qui commence dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu. Exemple donc au Burkina où l'armée ne cesse de multiplier les pertes malgré l'aide récente des forces françaises. C'est un reportage de Claude Guibal et de Fabien Gosset.
Des militaires tombés par dizaines face aux djihadistes qui ne cessent de gagner du terrain.
Colonel Lalé Dibri.
Une armée burkinabée démoralisée, traumatisée, abîmé aussi par les témoignages d'exactions qui se multiplient, ces représailles qu'on l'accuse d'exercer sur les communautés de musulmans peuls suspectés de connivence avec les djihadistes. En septembre, pour éviter que Djibo, la grande ville du Nord, ne tombe sous le contrôle des djihadistes, le Burkina a enfin officiellement demandé l'aide de l'armée française. Des renforts aériens de Barkhane venus du Mali voisin, un appui de la force Sabre stationnée à Ouagadougou. De quoi mettre en colère Ali Sanou du mouvement burkinabé pour les droits de l'homme et des peuples.
La présence militaire française dans notre pays, non seulement elle viole notre souveraineté, et puis elle est inutile. Regardez aujourd'hui certains camps militaires qui sont attaqués par des groupes terroristes. L'armée française, avec tous les moyens d'observation qu'elle a, n'arrive pas à détecter des groupes de terroristes qui circulent à 100 sur des moutons.
Méfiance, colère, ces derniers mois, au Mali, au Niger, comme au Burkina, les manifestations anti-français ne cessent de se multiplier. Alors que rien ne semble endiguer la poussée djihadiste, la présence des 4500 soldats de Barkhane au Sahel est questionnée. À Ouagadougou, la France est vue comme celle qui a soutenu pendant 27 ans le régime de Blaise Compaoré, d'où les réticences du nouveau pouvoir à faire appel à elle.
Le reportage de Claude Guibal et de Fabien Gosset, un mot encore des violences à Hong Kong, avec cette victoire juridique des manifestants pro-démocratie, l'interdiction du port du masque, décidée le mois dernier par l'exécutif, et bien été jugé ce matin anticonstitutionnel par la Haute Cour. On en vient à Stadia qui débarque demain en France comme dans 14 autres pays. Stadia, rien de moins que le futur du jeu vidéo selon Google. On appelle ça le cloud gaming ou encore le jeu en streaming. En clair, plus besoin d'avoir une console. Tout se passe sur Internet en ligne. Une petite révolution équivalente sur le papier à Netflix pour les séries et le cinéma, mais une révolution qui commence timidement, Sébastien Samirouin.
Pas de console, pas de téléchargement, pas de limite. Dans ces bandes-annonces matraquées sur YouTube, Google promet le Graal vidéoludique. Pour en profiter, il faut une tablette, un smartphone, un ordinateur ou une télé équipée d'un petit appareil estampillé Google. Les tarifs sont agressifs, gratuits pour profiter des jeux en haute définition. 10 euros par mois pour la très haute définition. Séduisant sur le papier, mais quelques bémols. Le catalogue de lancement est pauvre, seulement 12 jeux qu'il faudra acheter en plus de l'abonnement. La firme américaine promet une puissance deux fois supérieure aux consoles actuelles, mais pour en profiter, il faut une bonne connexion Internet. Mauvaise nouvelle pour les joueurs en zone rurale, pas toujours équipés en haut débit. C'est d'ailleurs la principale faiblesse du cloud gaming, qui pourrait s'estomper avec l'arrivée de la 5G. D'ici là, chacun veut se tailler la part du lion. Outre Google, Microsoft et Sony espèrent devenir le Netflix du jeu vidéo. On n'y est pas encore, mais avec près de 2 milliards de joueurs dans le monde, le marché est plus que prometteur.
Allez, on termine avec le film événement de la semaine, prix du jury à Cannes, sélectionné aux Oscars, Les Misérables de Lajli, tourné à Clichy-Montfermeil en Seine-Saint-Denis et présenté en avant-première dans la salle de spectacle de Clichy-sous-Bois. Yann Gallic a assisté à la projection en compagnie de spectateurs convaincus.
C'est une soirée particulière pour Lajli. Devant une salle pleine, le réalisateur présente son film aux habitants de Clichy et Montfermeil, dans cette banlieue où il a grandi, dans ces quartiers populaires encore marqués par les émeutes de 2005.
Bravo pour le film, bravo Lajli.
Parmi les spectateurs, beaucoup de jeunes venus du quartier des Bosquets à Montfermeil, là où a été tourné Les Misérables. Certains, comme Ali, 14 ans, ont participé au film en tant que figurant.
C'est la première fois que je passe dans un film. C'est une fierté que des gens ils font des films dans notre cité parce que quand la police nous contrôle, ils nous parlent mal, c'est très réaliste.
Une fierté partagée par Céina, lycéenne à Clichy-sous-Bois.
Il est arrivé beaucoup de choses à Montfermeil, entre Montfermeil et Clichy, les émeutes, la mort de Bounaïziyed. Beaucoup de choses comme ça qu'on peut apercevoir dans le film. Le fait qu'on réalise un film autour de notre quartier, ça c'est une fierté ça, pour notre ville et pour nous.
Habitante du quartier, Sonia a apprécié le réalisme du film, même si les villes de Clichy et Montfermeil ont beaucoup changé depuis les émeutes de 2005.
Moi je travaille dans le social et je peux vous dire que là toujours des tensions avec les jeunes et puis les policiers. Après, Montfermeil, ça a vachement changé. Hein. Les bâtiments, ils se sont détruits. Là, des nouveaux bâtiments, c'est plus chaleureux.
Les habitants de Clichy et Montfermeil espèrent voir Les Misérables décrocher un Oscar aux États-Unis. Ce serait, disent-ils, la plus belle des récompenses.
Les Misérables de Lajli, sorti ce mercredi 20 novembre.